tout le monde arrive à prendre du gras, même les joueurs de hockey comme Piqué. Marie-France, rebonjour.
Rebonjour, Paul.
Je connaissais pas, moi, Martin Mas.
Non, moi non
plus.
Ce
matin, je me lève, je lis l'article dans la presse de Marc Thibodeau. Il est un proche conseiller de Maxime Bernier, qui est officiellement, évidemment, le chef fondateur du Parti populaire du Canada. Mais là, c'est pas ça. C'est que on a ressorti certaines de ses positions cinglantes et volontairement provocatrices et polémiques qui remontent quand même à la fin des années 90.
Oui, allez lire ça dans la presse. C'est vraiment assez stupéfiant. La liberté avec laquelle il s'exprime sur différents sujets, sur les femmes, sur les écologistes, sur les armes à feu. Alors, Martin Mas, c'est donc, tu l'as dit, un stratège et un porte-parole du Parti populaire du Canada. Il a tenu ce blog qui s'appelait « Le blog d'un Québécois libre » de 1999 à 2016, au moment d'ailleurs où il était à l'Institut économique de Montréal, ce fameux think tank de droite. Il a été jusqu'à l'été dernier où il a quitté pour devenir donc très près de Maxime Bernier. Évidemment, la presse y est plongée, ça ressort parce que M. Mas, lui, n'en voit pas la pertinence, sauf qu'il ne renie pas un mot de ce qu'il a écrit. Ça a de la pertinence, ça a du poids parce qu'il est maintenant stratège et il a son mot à dire sur la philosophie, sur l'orientation du jeune parti. On sait que le PPC est un parti libertarien et il y a donc une communauté de pensée directe avec Martin Mas. Ses propos, je vais t'en faire part de quelques-uns comme ça en vrac, donc des propos misogynes, des propos racistes, sur les femmes à propos de la fameuse marche des femmes qu'avait organisée Françoise David. Il dit ce sont des féministes hystériques, des lesbiennes frustrées. Elles sont incapables de se prendre en main. Plus loin, à propos des femmes, du fait qu'il y en ait peu dans le parti de Maxime Bernier, c'est normal, elles ne sont pas faites pour être des leaders. À propos des armes à feu, leur large propagation est une condition à la sauvegarde de la civilisation. La liberté sans les armes est impossible. La civilisation risque de disparaître si les citoyens ne sont pas armés. Là, on est loin des armes à feu avec les chasseurs là, dont on a parlé la semaine dernière et on est à un pas des milices. C'est vraiment fou. Et ça va largement, il faut le préciser, ça va largement au-delà de l'approche officielle du parti de Maxime Bernier. À propos des accommodements religieux, il s'oppose au rôle de l'État dans la régulation des postes, du port de signes religieux. Il dit que c'est aux individus d'exercer le contrôle, d'envoyer un message clair à tous ceux qui ne sont pas les bienvenus ici. Et là, on se rappelle qu'ils sont en général armés. C'est vraiment spécial hein, comme propos.
Oui, il n'a pas une très haute opinion de René Lévesque.
Non, non plus, effectivement.
Il a qualifié de pygmée.
De pygmée, il parle de la statue et il compare vraiment un pygmée à la fois physique et dans son esprit et son intelligence. Sur la démocratie, il dit « La démocratie, c'est le socialisme. Les libertariens devront avoir comme objectif de discréditer la démocratie plutôt que de travailler à la renforcer. » Visiblement, il a changé d'idée parce qu'il est maintenant impliqué dans un parti. Mais la technique, Paul, tu remarqueras, c'est exactement celle de Trump et des populistes. Décrédibiliser les médias, les institutions et le politique. C'est vraiment ça.
Et pourtant, il a commencé bien avant Trump.
Exactement. Il est constant. Il est vraiment constant. Et on dira, le politiquement correct fait que ce qu'on disait à l'époque ou ce qu'on écrivait il y a 10 ans est impossible aujourd'hui. Non. Ce qu'il écrivait en 1999 et en 2000 était sauvage, et c'est tout aussi sauvage en 2019. Alors, quelle est l'importance, quel est le rôle de Martin Mas sur Maxime Bernier? Est-ce que Maxime Bernier se dissocie ou pas des écrits de son stratège? Parce que Mas, lui, ne renie strictement rien. On dit dans la presse, dans l'article de Marc Thibodeau, que Maxime Bernier n'a pas tout lu de l'ensemble des textes de Martin Mas. Moi, je trouve qu'il devrait. Parce que cet automne, CBC nous apprenait que pour les partisans du PPC, pour qu'ils ne nuisent pas à l'image de Maxime Bernier, il y avait toutes sortes de choses, entre autres, ne pas trop s'approcher, ne pas l'embrasser. Et on exigeait on exigeait beaucoup des membres des associations de circonscription. Par exemple, ils doivent envoyer leur CV, une vérification du casier judiciaire, la liste de leurs comptes actifs sur les réseaux sociaux et il y a une vérification de leurs antécédents. Donc, si Mas est lui aussi passé par là, ça veut dire que Maxime Bernier est donc d'accord avec ce qu'il écrit.
Bref,
On attend la réponse.
Oui. Mais il a passé dans le filtre, quoi.
Il a passé dans le filtre. C'est ce que ça veut dire, parce qu'on demande beaucoup aux partisans de Maxime Bernier. Donc, j'imagine qu'on s'attend à autant de son stratège. Histoire à suivre.
À suivre, certainement. C'est la Saint-Valentin, c'est le 14 février, et nous sommes à l'ère du numérique.
Exactement. On assiste depuis quelques années vraiment à une révolution dans le monde de la rencontre. Et rendons à Valentin ce qui appartient à Valentin. Paul, il y a un article de Stéphane Baillargeon dans Le Devoir ce matin qui m'a mis sur la piste, qui parle de seul amour au temps du numérique. Et parce que être seul, être à la recherche de l'âme sœur ou du corps disponible, disons-nous les choses bien franchement, en 2019, c'est plus compliqué et c'est plus facile que jamais. Disons qu'on n'est pas à la merci d'un bar ou d'une blind date organisée par des amis charitables. Les possibilités sont vraiment infinies avec le web, avec la révolution numérique qui est passée par là, y compris sur le marché du cœur et des sentiments. Baillargeon cite un sondage léger de 2016 qui dit que 50 % des Québécois de moins de 55 ans, ça fait beaucoup de monde ça, ont fait appel à un site ou à une application de rencontre. Ça parle de Tinder, évidemment, de Grindr pour les gays. Tout récemment, Facebook Dating, depuis le mois de novembre. Donc, toutes les applications plus ou moins connues. Et ça fait désormais partie des outils de la joute amoureuse. Avant, on remettait notre destin amoureux entre les mains d'amis ou du destin, justement. Ça fait quelque chose de très artisanal. Là, c'est numérique, c'est démultiplié, plus banalisé quelque part, beaucoup plus de potentiel. Et beaucoup plus d'élus possibles. Alors, la rencontre, elle est donc démocratisée, elle est très, très, très facile d'accès. C'est un côté pervers. L'échec, la solitude sont d'autant plus cuisants. Si vous êtes seul ce soir, disons que c'est dur à porter parce qu'il y a tellement de prospects et vous êtes tout seul. Il y a un ostracisme. C'est vraiment donc plus lourd à porter. Alors, qu'est-ce qu'apporte le web? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, l'ampleur du bassin potentiel des partenaires est beaucoup plus vaste. Vous êtes en contact avec un nombre de personnes qu'on ne trouverait jamais dans nos cercles d'intérêt réels. On a accès à des milieux très différents. Ça a quelque chose de sécuritaire aussi, ça donne confiance. Il y a la liberté des individus qui a changé. Ça, en général, ça se reflète dans le monde du numérique, mais pas que. Dans la vie réelle aussi, les couples sont moins durables, les relations sont plus courtes, les valeurs sont plus lousses, donc il y a plus de possibilités. Sur les réseaux numériques, il y a des communautés spécialisées qui sont vraiment visées par les applications. Par exemple, on dit que les gays aux États-Unis, un sondage qui montre que 90 % des relations se sont faites par l'entremise du web. Il y a des applications qui s'adressent aux communautés sexuelles ou ethniques ou religieuses ou culturelles. Il y a Silver Elite pour les gens donc peut-être un peu plus snob ou en moyen. Il y a Silver qui s'adresse aux plus vieux. Il y en a pour des rencontres extra-conjugales. Il y en a même pour les sugar daddies et sugar babies.
Oh oui?
Là, c'est vraiment très, très, très spécialisé. Tu cliques ce que tu veux, puis tu
sugar
trouves...
Daddy.
Absolument.
Ah oui.
Je sais pas si ça t'intéresse, mais en tout cas, il y a ça.
Ben non, j'ai moyen d'être... On laisse ça à Pierre-Yves.
D'accord. Oh oui, c'est vrai, effectivement. Alors, il y a le pouvoir des femmes également. Elles ont la possibilité de plus en plus de choisir plutôt que d'être choisies, entre autres sur les applications. Alors, les avantages sont nombreux. On peut le voir uniquement avec ce que je viens d'énumérer. Mais les conséquences, ça donne des relations peut-être plus jetables que jamais. L'impact il y a vraiment l'aspect consumériste de nos relations, ce sentiment d'échec dont je parlais qui a augmenté, on se dit faut être vraiment loser quand il y a autant de possibilités, mais pourtant il y a beaucoup de couples qui se forment grâce à ces applications. Et ce qui demeure, et là c'est vraiment la sociologue qui parle en ce soir de Saint-Valentin, ce qui demeure c'est que le couple demeure essentiellement endogène. Ça veut dire que la plupart des couples, Paul, se forment dans le milieu de travail, dans le même milieu socio-économique,
oui,
dans un même groupe d'âge, dans une même classe sociale.
Ouais.
Ça veut dire que t'as beau chercher sur Tinder tant que tu veux, puis aller vers des groupes que tu ne connais pas, ton futur est probablement dans ton milieu d'études, de travail ou de loisirs.
Bien dit.
Alors, mon conseil...
Plus près du milieu naturel.
Absolument. Il est très rare. Et regardez les couples autour de vous. Ouais. En général, ils sont du même âge, du même même groupe social, économique. Ouais. Alors, mon conseil pour ce soir,
ouais,
gardez les yeux réels, bien ouverts, chassez dans votre milieu, c'est la recette la plus éprouvée.
Ah, oh, ça, c'est bien dit. Ça donne espoir au milieu naturel.
Exactement, le milieu
Est-ce
naturel.
Est-ce que tu savais, Marie-France, ben, j'avais lu un article justement en prévision de la Saint-Valentin, que plus puissant encore que tout ce que tu viens d'énumérer dans la révolution numérique,
ouais,
la rencontre au parc à chiens crée des couples solides.
Ben, exactement.
Et qui partagent le même amour des petits animaux.
Ben, on a un sujet en commun, effectivement.
Tu vois?
Et le parc à chiens est situé dans un quartier géographique. Donc, vous allez dans votre parc à chiens. C'est votre niveau socio-économique.
Oui.
C'est un type de voisin qui vous ressemble. Donc, ça confirme tout à fait ce que je dis.
Oui. Aux États-Unis, là, la rencontre du parc à chiens a créé des couples légendaires.
Bon, ben alors, tous au parc à chiens ce soir. Empruntez un chien.
C'est trop froid. Merci, Marie-France.
À demain, Paul.